Bonsoir. Le secrétaire général fera un point sur la séance qui vient de se terminer et puis nous entendrons vos questions. Bonsoir. Nous venons de terminer une réunion très productive des ministres de la Défense de l'OTAN, cette première réunion dans ce nouveau siège. Nous avons décidé des prochaines étapes pour renforcer notre sécurité partagée et renforcer notre défense et notre dissuasion contre les menaces de toute origine. Nous adaptons la structure de commandement de l'OTAN, l'épine dorsale militaire de notre alliance. Aujourd'hui, les ministres étaient d'accord pour renforcer la nouvelle structure de commandement en y apportant une injection de 1 200 hommes. Nous sommes également convenus que notre nouveau commandement de force interarmée pour l'Atlantique sera basé à Norfolk, en Virginie, aux États-Unis, et qu'un nouveau commandement de facilitation, lui, sera basé à Ulm, en Allemagne, afin de garantir que nous ayons les bonnes forces au bon endroit, au bon moment. Ces états-majors seront essentiels pour les renforts ou le renforcement de l'Alliance à travers l'Atlantique, mais également à travers toute l'Europe. Et je souhaiterais remercier les États-Unis et l'Allemagne pour leur leadership alors qu'ils accueillent ces deux états-majors. Les ministres ont également approuvé l'initiative de réactivité de l'OTAN, ce que l'on appelle les 4-30. Alors, il ne s'agit pas de nouvelles forces. Il s'agit d'augmenter la réactivité des forces des pays et des forces dont disposent d'ores et déjà les pays. Aujourd'hui, les alliés se sont engagés pour que d'ici à 2020, nous disposions de 30 bataillons mécanisés, 30 escadrilles aériennes et 30 navires de combat prêts à être utilisés dans un délai maximum de 30 jours, voire moins. Cela démontre notre détermination afin d'inculquer cette culture de la réactivité dans toute l'Alliance. Nous avons également abordé la question du partage du fardeau qui sous-tend tout ce que nous faisons. Les alliés enregistrent de réelles avancées, et ce quant à tous les aspects du partage du fardeau, le financement, les capacités et les contributions. Alors, quand il s'agit du financement, aujourd'hui, je peux vous annoncer les premiers chiffres estimés pour 2018. Comme vous le voyez sur ce cliché affiché, à présent, nous avons donc 4 années consécutives de réelle augmentation des dépenses de défense. Tous les alliés ont arrêté les coupes et tous les alliés augmentent les dépenses de défense. De plus en plus d'alliés dépensent plus ou consacrent plus de 2% de leur PIB à la défense et la majorité des alliés à présent ont décidé de le faire et disposent de plans pour le faire d'ici à 2024. Pour les alliés européens et le Canada, nous nous attendons à une croissance en termes réels cette année de 3,8%. Cela veut dire que depuis 2014, les alliés européens et le Canada auront dépensé 87 milliards de dollars supplémentaires et les auront donc consacrés à la défense. Quand il s'agit des capacités, les alliés se sont engagés afin d'investir 20% de leurs dépenses de défense, et ce, pour des équipements majeurs. Cette année, 15 alliés doivent atteindre cet objectif, et je m'attends à ce qu'il y en ait encore davantage dans les prochaines années. Les alliés ont également renforcé leur contribution aux missions et opérations de l'Alliance. Mais bien évidemment, il nous reste encore du travail à effectuer. Le partage du fardeau sera un thème essentiel de notre sommet du mois prochain. Et je pense que les alliés vont tous continuer dans le sens de ces efforts. Les ministres sont également revenus sur les avancées dans la cyberdéfense. À la suite des promesses au sommet de Varsovie en 2016, nous avons renforcé nos cybercapacités. Nous avons également décidé de mettre en place un centre opérationnel cyber, et ce, dans le cadre de la nouvelle structure de commandement. Et nous avons agréé les principes l'année dernière et ainsi, à présent, nous avons pu agréer un cadre pour l'intégration des effets cyber souverains et ce, dans les opérations et missions de l'Alliance. Cela permet d'appuyer la dissuasion et la défense de l'OTAN parce que tout a une dimension cyber de nos jours. Et il faut pouvoir être aussi efficace dans le cyberespace comme nous le sommes sur Terre, en mer et dans les airs. Les décisions que nous avons prises aujourd'hui permettent de préparer un sommet fructueux au mois de juillet avec plus d'investissements, un partage du fardeau plus équitable et une posture de défense renforcée Ainsi, nous adaptons l'OTAN à l'avenir. Et fort de cela, je suis prêt à répondre à vos questions.
Je vous demande de vous présenter, d'indiquer de quelle agence vous provenez. Ici, à la première rangée, de l'Italie. Deux questions, si vous permettez. D'abord, sur les relations entre l'Italie et la Russie, parce que le président Vladimir Poutine a déclaré qu'il se félicitait de voir les choses bouger au sein de l'Union européenne pour ce qui est des sanctions imposées contre la Russie. Je souhaite avoir votre réaction. Deuxième question. Pouvez-vous revenir sur les engagements de l'Italie en matière de dépenses de défense? Est-ce que l'Italie est dans la bonne voie? Et est-ce que, d'après vous, le nouveau gouvernement va respecter les engagements déjà contractés par l'Italie? Merci. Réponse. L'Italie est un allié très important pour nous. L'Italie contribue à notre sécurité collective de diverses manières. Je me félicite de voir que l'Italie a entamé une augmentation de son effort de défense. L'Italie contribue à des missions et des opérations de l'Alliance aussi, de diverses manières. L'Italie est parmi les pays qui apporte les contributions les plus importantes à nos missions et à nos opérations. Par exemple, en Afghanistan, l'Italie joue le rôle de pays chef de file. L'Italie participe à nos opérations maritimes aussi. L'Italie est présente au Kosovo et ailleurs. Et l'Italie nous envoie des militaires hautement professionnels, dévoués. Nous saluons toutes ces contributions. L'Italie accueille aussi différents états-majors de l'OTAN, par exemple le commandement de forces interalliées à Naples. Il y a aussi les installations de Sigonella et d'autres états-majors de l'OTAN. Pour ce qui est des sanctions, l'OTAN ne cherche pas à isoler la Russie. Nous cherchons en fait à améliorer nos relations avec la Russie. L'ensemble de l'Alliance est uni, s'entend sur cette approche à deux voies. D'une part, il y a la dissuasion et la défense. Et d'autre part, il y a le dialogue. La Russie est un pays voisin pour nous, ce qui n'est pas près de changer. Donc, nous cherchons à améliorer nos relations avec la Russie. Cela dit, je reconnais l'importance des sanctions qui communiquent clairement à la Russie qu'en cas de violation du droit international ou de la souveraineté, de l'intégrité territoriale d'un pays voisin, comme ça s'est vu en Ukraine, eh bien tout cela entraîne des conséquences. Et c'est pourquoi la communauté internationale a réagi au moyen de ces sanctions auxquelles je souscris. Les sanctions ne sont pas décidées par l'OTAN, mais les alliés de l'OTAN ont soutenu ces sanctions parce que ces actes doivent s'accompagner de conséquences quand on voit donc de telles violations des règles du droit international. Et je me félicite de pouvoir rencontrer le Premier ministre de l'Italie lundi, ainsi que le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense. Alors je me rendrai en Italie pour rencontrer le nouveau gouvernement. Je félicite le Premier ministre de ce nouveau rôle qu'il a assumé. La BBC. Oui, Jonathan Marcus, la BBC. Je vous poserai deux questions. D'abord sur l'effort de défense. Dans le tableau que vous avez affiché, nous voyons une certaine tendance à la baisse à la droite du tableau. Est-ce une aberration, une anomalie pour l'année en question? Ou, merci d'avoir affiché le tableau, et où est-ce que vous voyez une certaine perte de vitesse dans cette augmentation des dépenses de défense? Ma deuxième question maintenant, on insiste beaucoup sur la nécessité de la mobilité de nos forces armées, de la capacité d'envoyer des renforts. Bien sûr, une autre solution serait d'avoir des bases vers l'avant. Est-ce que vous pouvez réagir à ce document du ministère de la Défense de la Pologne qui voudrait donc accueillir, semble-t-il, une division des forces armées américaines en Pologne, donc une base avancée des États-Unis à l'Est? Est-ce que vous avez évoqué ce sujet aujourd'hui? Réponse. En 2018, les dépenses de défense augmentent. Vous voyez, la colonne est indiquée en vert et nous voyons une augmentation de près de 4%. Donc les augmentations se maintiennent et les augmentations en 2018 s'ajoutent à la croissance que nous avons constatée au cours des années 2015, 16 et 17. Alors vous voyez que les augmentations se maintiennent et se succèdent et cela se compare à ce que nous avions comme situation avant que l'OTAN n'ait adopté cet engagement pour les dépenses de défense, parce que vous voyez que nous avons inversé la tendance. En 2018, nous constatons une augmentation donc notable en termes absolus. Il s'agit ici donc de prévisions initiales. Et ce que nous avons vu, c'est que au fil de l'année, au cours des années passées, ce bilan s'est amélioré. Alors, si nous suivons la même tendance que nous avons constatée l'année dernière, cette augmentation va simplement se consolider, se bonifier d'ici la fin de l'année. Alors, je souligne l'importance de continuer à en faire davantage pour atteindre de nouveaux sommets dans ces augmentations. Mais vous voyez que ces augmentations s'ajoutent à la croissance que nous avons déjà constatée. Ensuite, nous n'avons pas évoqué cette proposition polonaise aujourd'hui, mais nous voyons que l'OTAN a quand même renforcé sa présence à l'est de l'Alliance, notamment en Pologne ces dernières années, pour la première fois de l'histoire de l'OTAN. Nous avons donc des forces de combat, des groupements tactiques sur place dans les États baltes et en Pologne. Nous avons un groupement tactique dirigé par les États-Unis qui est présent en Pologne. Et nous avons différents commandements qui sont également présents en Pologne, notamment à Szczecin. Nous sommes en train de mettre en place aussi des installations de défense antimissile en Pologne. Alors la présence de l'OTAN en Pologne se manifeste à différents endroits. Les États-Unis, le voyons-nous, renforcent leur présence en Europe. Cela s'inscrit dans la défense collective de l'OTAN. Il y a notamment une augmentation de 40% dans les dépenses de défense depuis l'arrivée à la présidence de Donald Trump. Au titre de ce qu'on appelle l'initiative de dissuasion en Europe, il y a davantage d'exercices, davantage de forces, davantage d'équipements qui sont prépositionnés vers l'avant. Alors nous voyons le renforcement de la présence des États-Unis et de l'OTAN à l'est du territoire de l'Alliance. Je me félicite de tout ce changement qui traduise la force croissante du lien transatlantique. Reuters, à dernière rangée. Robin Gamet de Reuters, vous dites vouloir préparer un sommet couronné de succès. Vous vous êtes rendu à Washington et vous avez affiché ces résultats, mais est-ce que cela va aller dans le sens des préoccupations de M. Trump par rapport au 2%, cet objectif de 2%? Réponse, le président Trump salue ces progrès réels. Il voit que au Canada et en Europe, l'on a consacré davantage de fonds à la défense. Il parle de ces afflux de fonds. Il cite notamment ces chiffres qui indiquent effectivement un début d'augmentation des dépenses de défense. C'est un véritable point tournant parce que jusqu'à tout récemment, l'effort de défense baissait dans différents pays. Depuis 4 ans, nous constatons une augmentation soutenue. Tous les alliés ont mis fin aux compressions budgétaires. Tous les alliés ont commencé à consacrer plus de moyens à la défense. Davantage d'alliés cette année vont atteindre cet objectif de 2% du PIB consacré à la défense. Je ne prétends pas que tout cela suffit, mais nous n'avons pas promis d'atteindre cet objectif en l'espace d'un an. Nous avons parlé de mettre fin aux compressions et d'augmenter progressivement et d'atteindre l'objectif des 2% en l'espace d'une décennie. Bien sûr, il faut en faire davantage, mais nous voyons quand même un bon début, des résultats prometteurs. Les alliés européens se prennent en main et nous nous félicitons de tout cela. Alen Abramovich de l'antenne Inter d'Ukraine, je souhaite me faire l'écho de la question de l'Italie. Un nouveau ministre italien a soulevé cette question, cette éventualité de lever les sanctions. Alors, par rapport à l'Ukraine, savez-vous dans quel cadre nous pourrions assister à une réunion entre l'OTAN et l'Ukraine au sommet en juillet? Réponse, nous allons inviter le président Porochenko au sommet de l'OTAN. Nous n'avons pas encore décidé des formats. des différentes réunions, mais toujours est-il que le président Porochenko sera invité, notamment parce que nous avons déjà décidé de réunir les pays qui contribuent à la mission Resolute Support. Alors, nous n'avons pas encore fixé l'ensemble des formats pour le sommet. Toujours est-il que nous avons lancé une invitation au président Porochenko. Ensuite, le nouveau ministre italien peut vous expliquer son intervention au cours de notre réunion des ministres de la Défense. J'ai souhaité la bienvenue à la ministre Trenta qui assistait à sa première réunion des ministres de la Défense de l'OTAN, mais je puis vous dire que nous n'avons pas évoqué le sujet des sanctions au cours de cette réunion. Monsieur, là-bas. Merci. Bonsoir. Andrei Paronikov, des médias Bélarusse. Je souhaite poser une question sur le flanc Est, question très délicate pour le Bélarusse. Alors, je souhaite savoir si l'OTAN compte envoyer d'autres forces en Pologne et dans les États baltes. Merci. Réponse. Nous avons déjà renforcé notre présence à l'est du territoire de l'Alliance. Nous nous attachons maintenant à assurer notre capacité d'envoyer des renforts et c'est pourquoi nous avons multiplié par 3 les effectifs de la force de réaction de l'OTAN et c'est pourquoi nous avons convenu de lancer cette initiative pour la réactivité. Mais il s'agit là de forces qui sont déjà présentes dans leur pays d'origine. La NRF, la force de réaction de l'OTAN, dépend de contributions de différents pays alliés, mais toujours est-il que les forces se trouvent dans leur pays d'origine, tout en pouvant être mobilisées rapidement s'il le faut. Alors l'OTAN cherche actuellement à voir comment nous pouvons dépêcher des renforts où que ce soit au sein de l'Alliance, en fonction des besoins, que ce soit au nord, à l'est, au sud ou à l'ouest, selon les besoins, au moyen de la force de réaction de l'OTAN et grâce aux forces que nous allons désigner dans le cadre de cette initiative pour la réactivité. Aussi, nous adaptons notre structure de commandement pour permettre de mieux assurer l'envoi de renforts. Donc ces 2 nouveaux commandements, le JFC de l'Atlantique à Norfolk et le JFC à Ulm en Allemagne, auront pour vocation de permettre l'envoi de ces renforts. NTB à la 3e rangée, monsieur, avec la barbe. Non, vous ne souhaitez pas poser de questions, sinon monsieur là-bas. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire Général. Mehmet Solmaz, du quotidien Sabah, turc. Il y a eu une récente décision d'un tribunal grec. Il y avait 4 de 8 militaires turcs qui ont participé à cette tentative de coup d'État ratée en 2016, avaient été libérés, et nous avons vu qu'il reste 4 officiers turcs qui ont également été remis en liberté. Donc tous ces militaires qui ont fui le pays dans un hélicoptère des forces armées ont tous été libérés à présent en Grèce. Alors quel message envoyez-vous à la Grèce surtout? Et ne jugez-vous pas que ce genre de mesures mine la coopération au profit de la sécurité entre ces 2 alliés que sont la Grèce et la Turquie? Réponse. Oui, nous sommes bien conscients de la problématique et j'en ai parlé avec le président Erdogan, Ankara, ainsi qu'avec le gouvernement grec, de différents ministères. Essentiellement, j'insisterai aujourd'hui sur la nécessité de rester calme, de faire preuve de retenue, parce qu'il faut effectivement résoudre ces problèmes, donc j'insiste sur la nécessité de rester calme et de faire preuve de retenue. L'agence France-Presse.
Certains ministres de la Défense, avant de venir à cette réunion, ont fait part de leur colère ou de leur désappointement d'être considérés, alors qu'ils sont comme des alliés, d'être considérés comme des problèmes pour la sécurité nationale des États-Unis. Alors je voudrais savoir, puisque nous n'avons pas pu entrer dans cette réunion, si le sujet a été abordé, notamment par le ministre canadien, qui a dit qu'il entendait le soulever, quelle a été la réponse? Est-ce que cela a pesé sur la réunion ou pas du tout? Merci.
Oui, de nombreux ministres ont insisté sur la nécessité de l'unité de l'OTAN, de la nécessité de rester unis, notamment quand nous voyons la Russie qui cherche à nous diviser. Alors l'unité au sein de l'Alliance constitue le principal message que nous pouvons communiquer à la veille du sommet du mois prochain. Alors, on a beaucoup insisté là-dessus. Plusieurs ministres ont repris ce thème au cours de la réunion. Par le fait même, nous savons tous qu'il existe des différends, des divergences de vues entre alliés de l'OTAN sur des questions de commerce, sur l'accord sur le nucléaire uranien ou sur le changement climatique. Mais auparavant, nous avons bien vu que malgré ces divergences, l'OTAN a toujours su rester unis sur nos missions fondamentales, à savoir nous protéger les uns les autres. Et cette unité ne se dément pas. Nous constatons des divergences, mais l'OTAN reste unie. Non seulement cela, nous voyons que l'OTAN arrive à renforcer ses liens de coopération ainsi que le lien transatlantique. Parce que malgré ces divergences que nous pouvons constater à l'occasion entre alliés, membres de l'OTAN, sur des questions de commerce notamment, nous voyons que l'OTAN arrive à renforcer la défense collective. Nous avons consenti les renforcements les plus importants de nos moyens depuis la fin de la guerre froide. Et les alliés européens, ainsi que le Canada, consacrent davantage de moyens à la défense. Les États-Unis renforcent aussi leur présence en Europe. Alors, je reconnais qu'il existe des divergences sur des questions telles que le commerce, mais je vois qu'au sein de l'OTAN, nous arrivons à renforcer le lien transatlantique et à renforcer notre défense collective. Merci. Nous arrivons là à la fin de ce point de presse et nous vous retrouverons demain.